Francia avait co-signé en fait l'intervention dans la mesure où c'est une recherche que nous avons faite dans le cadre d'une convention que nous avons entre Marseille et Genève sur ces questions. Et par conséquent, on est l'autre partie de l'étude comparée qu'elle fait. Cela dit, il faut bien que je signale une chose. Francia a une force et une qualité dans la mobilisation de méthodes de travail et une précision que malheureusement les discours que vous avez montrés hier montraient comment je le faisais de façon un peu spontanée et pas très formalisée, et elle formalise complètement le travail. Donc c'est un exercice pour moi que de montrer de façon formelle des choses que je ne sais pas faire normalement. Voilà, c'est vraiment le travail de Francia. Alors, il s'agit de montrer comment on peut faire une analyse didactique conjointe dans un processus de comparaison de manière d'enseigner un même enseignement, normalement, de réaliser un même enseignement, entre Marseille et Genève. Et à Marseille, on l'a fait dans une ZEP, et à Genève, dans la Maison des Petits, qui est l'école la plus, j'allais dire, chic de Genève, dans la mesure où elle est au centre, et où c'est là où observait Piaget lorsqu'il voulait voir des élèves. Donc, il s'agit bien d'un processus de comparaison et d'analyse croisée. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est le complément de ce qu'a montré Roland Guagou dans son analyse, j'allais dire, avant l'entrée dans le cœur du didactique et de la comparaison des actions. Là, on va rentrer justement dans le cœur des actions, mais l'articulation des deux est encore un projet à réaliser. Et malheureusement, je dirais, il n'a pas encore été réalisé, sinon de façon partielle et malgré tout fort intéressante, avec le projet PIREF sur le calcul et la lecture. Donc, l'exposé va montrer la problématisation du dispositif, la situation du jeu du trésor, c'est-à-dire une description rapide de l'objet d'enseignement. Et puis, on vous présentera le plus longuement, c'est l'enjeu, le dispositif d'analyse croisée, le traitement des observables discursifs avec les niveaux d'analyse et les analyses mésoscopiques et microscopiques, c'est-à-dire la définition d'épisodes pertinents pour l'analyse et la façon de les sélectionner. Et puis, il y aura quelques conclusions.
Je peux apporter quelques précisions ?
Oui.
Bon, plus précisément, on va regarder... comment, dans le cadre de l'ingénierie du jeu des trésors, comment un groupe d'enseignants inséré dans un groupe de recherche va intégrer cette situation, cette ingénierie du jeu des trésors. Donc, on va préciser nos analyses sur le travail de l'investissement par un groupe d'enseignants dans ce dispositif de recherche.
Voilà. Donc, tu passes. Voilà. Donc, la Maison des Petits à Genève, je vous l'ai présentée. C'est un vieux partenariat, puisqu'il est centenaire, entre la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation et la direction de l'enseignement primaire. C'est donc une école pour la recherche qui existait depuis longtemps, où Piaget a travaillé, avant Piaget Claparède, si j'ai bonne mémoire, et donc maintenant l'équipe de didactique comparée à Genève. Le jeu du trésor, l'objet donc, c'est une situation mise en œuvre à Genève et à Marseille. C'est une ingénierie qui se fait en maternelle, qui dure toute l'année et qui conduit les élèves à comprendre l'enjeu d'une convention scripturale, c'est-à-dire l'enjeu de définir un code commun pour désigner les objets d'une collection d'objets, ce code n'étant pas un code écrit, mais un code scriptural. Voilà. Donc, c'est cet ensemble-là qui va être l'objet de l'analyse.
Il faut marquer aussi un travail collaboratif.
Oui, alors c'est un travail collaboratif entre les professeurs et les élèves, c'est-à-dire que le dispositif est décrit depuis longtemps, il est donné aux professeurs par les chercheurs, et les professeurs le réalisent sous leur propre responsabilité, en fait. Mais les interprétations et les conditions, disons, de l'exercice font qu'il y a un certain nombre de variations dans la réalisation. Et nous allons donc comparer ces variations en faisant se rencontrer les professeurs. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, premiers éléments théoriques, qu'est-ce qu'on va étudier dans ces analyses croisées ? On approche ce que l'on appelle le système didactique, qui est notre unité d'observation standard en didactique. Je rappelle que le système didactique est un système composé de trois instances, enseignante, enseigné et le savoir, et qu'on regarde à la fois des phénomènes de transposition et de contrat. De transposition, c'est-à-dire que deviennent les savoirs au cœur de la mise en œuvre, et de contrat, c'est-à-dire quelles sont les attentes réciproques des enseignants et des élèves, et comment cela se traduit par la transformation des savoirs enseignés dans la mise en œuvre. Donc ce sont le système des concepts, c'est ces trois grandes notions qui sont là travaillées. Ensuite, on va tenter de vous présenter comment on peut imaginer le dispositif. À Marseille, nous avons... À Genève, nous avons à l'intérieur de l'institution plusieurs réalisations possibles, et donc une comparaison à l'intérieur même de l'institution qui est l'enseignement, le système d'enseignement genevois. Et à Marseille, nous avons aussi plusieurs réalisations, donc une comparaison inter-institutionnelle dans le système d'enseignement en France. En fait, il s'agit de chaque fois de deux professeurs de la même école qui réalisent en parallèle l'enseignement complet. Et ensuite, on fait une comparaison inter-institutionnelle. Donc, c'est ce double mouvement qu'on va vous présenter.
Dans des analyses vidéo.
Tous les enseignements sont vidéoscopés et c'est la comparaison à partir des analyses vidéo qui va être faite. Voilà. Alors, donc, si on regarde maintenant les extraits vidéo que l'on obtient, on voit qu'on analyse la transposition et le contrat didactique dans les deux endroits et les raisons d'agir, et qu'on regarde à la fois ce qu'on en apprend du point de vue de la recherche et, pour les enseignants, ce qu'on en apprend du point de vue de l'enseignement. Car dans la mesure où les recherches sont collaboratives, l'apprentissage des enseignants est aussi intéressant pour nous que l'apprentissage des chercheurs dans l'opération, c'est-à-dire tout le monde produit du savoir, évidemment pas des savoirs qui appartiennent au même registre, mais il y a des savoirs qui sont produits des deux côtés. Et c'est là qu'on peut retrouver des problématiques différentes. Donc, le contrat de recherche porte sur, justement, la production collective de ces savoirs, et il permet de regarder, entre enseignants et chercheurs, ce qui va être produit. C'est déclaré par avance comme but de produire des savoirs.
Et pour préciser un peu plus loin ce que vient de dire Alain, donc le but premier pour les chercheurs, c'est de produire des savoirs pour la recherche, en didactique en l'occurrence. Et le premier but pour les enseignants, c'est de produire des savoirs pour leur pratique.
Oui, on est bien d'accord. Donc, le jeu du trésor, il faut qu'on vous le présente un peu quand même, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, bien qu'il soit célèbre. C'est une situation qui conduit à construire des conventions scripturales. Je rappelle qu'il est en quatre phases, qui durent chacune un temps assez long, de 3 semaines à 2 mois, suivant les phases. La phase préparatoire permet de constituer dans la classe un référentiel commun, et le jeu est conduit collectivement par les élèves à ce moment-là, donc lors des temps de regroupement en début de journée. Alors, il y a un coffre dans lequel on met des objets et petit à petit, les objets sont nommés par la classe. Une fois que le nom est connu, ils sont mis dans la boîte reste ouverte. Et le lendemain, le jeu consiste à ce que la classe, collectivement, dise quels sont les objets qu'il y a dans la boîte. Donc tout le monde se souvient de l'ensemble des objets du trésor. Mais évidemment, chacun peut se souvenir d'un objet, ou deux, ou trois. Ça suffit pour que la classe réussisse à nommer l'ensemble des objets de la boîte. Et le professeur les ressort, et puis on les remet dans la boîte. C'est le trésor. Et à chaque fois que l'on joue, le professeur rajoute un, deux ou trois objets dans la boîte, suivant la difficulté qu'il voit à les nommer et à les rentrer. Donc là, vous voyez que c'est une photo de Genève où on a une vraie boîte au trésor qui ressemble à un coffre au trésor de pirate. Voilà, donc le jeu a pris ce sens-là. Voilà le genre d'objet que l'on introduit. Des objets circulaires et en grand nombre, ce qui va interdire le fait de désigner par un rond un seul objet. Il faudra d'autres critères pour désigner le miroir rond. Il est rond, il y a deux lignes, mais l'anneau de réseau qui est à gauche a aussi la même propriété. Et donc il faudra signifier que c'est un miroir en plus. Il faudra trouver donc un code pour ça et puis se mettre d'accord sur le code. Évidemment, peut-être le ballon de football ou la balle mousse, c'est plus facile, mais la balle de ping-pong, elle se représente avec aucun trait visible en plus de sa rondeur. Et la couleur ne sera pas un moyen de coder. Il faudra coder la couleur par un code qui ne sera pas une couleur. Donc, vous ne pourrez pas peindre en bleu la bille bleue et en blanc la balle de ping-pong. Donc voilà les types de problèmes. Il y a aussi des objets parallélépipédiques, des objets cylindriques, plus ou moins longilignes, et des objets tout à fait singuliers, qui peuvent être objets d'un investissement plus affectif, le cas échéant. Donc un personnage, une clé, un collier et un masque dans cet endroit-là. En fait, dans chaque lieu, les gens constituent une collection qui doit avoir ses propriétés de variété et aussi de trésors. Les noms que vous avez là sont les noms que nous avons nous donnés, mais qui vont être ceux qui vont être donnés dans la classe ne sont pas nécessairement ceux-là. Ils sont choisis en fait par les élèves et le professeur collectivement dans la partie du le jour de leur introduction. Donc ça peut être la petite camionnette bleue ou le Playmobil au pantalon jaune ou la gomme de toutes les couleurs et pas la gomme tout court comme nom qui va être choisi par les élèves. Donc, après le soir, ils sont placés dans le coffre reste ouvert, il est refermé, placé dans une armoire le soir. Le lendemain, on a les élèves nomment le contenu du coffre et on voit que c'est la classe qui peut gagner. Le jeu est donc un jeu de la classe, collectif. De fait, on se contente de construire la collection sur laquelle on va jouer. Le jeu commence ensuite avec une phase de transition, et puis le jeu des listes et le jeu de communication et la construction du code. Donc ce n'est qu'à la quatrième phase, en fait, que les élèves rencontrent l'enjeu réel du jeu, le reste étant la construction d'une situation permettant que cet enjeu soit rencontré par les élèves. C'est donc un artefact qui va permettre de rencontrer ça. Alors, pour ces phases, donc la phase de transition individuelle n'est pas la plus importante, c'est le fait qu'on fait jouer les élèves à un petit jeu de rappel de trois objets qu'on met dans la boîte et dont ils doivent garder le souvenir pour le lendemain, juste pour que ensuite, ça c'est la phase 2A, la question qui va leur être posée puisse avoir du sens et leur poser un problème qu'ils ne puissent pas refuser de se poser. Et c'est le jeu des listes. Et en fait, la question qui leur est posée est la suivante. Un jour, le professeur met dans la boîte pour le lendemain non pas deux ou trois objets, ce que tout le monde peut se souvenir, mais d'abord il le fait un vendredi, comme ça il y aura un week-end, et en plus il met 12 objets. Et donc le professeur en met 3, puis il met un quatrième, puis il met un cinquième, il commence à avoir normalement un frémissement dans la classe, parce qu'il commence à s'inquiéter de savoir comment on va pouvoir dire la chose. Le professeur ne dit pas « il va falloir se souvenir, mais il va falloir pouvoir me dire qu'est-ce que j'ai mis dans la boîte », puis il en rajoute un sixième, puis un septième, puis un huitième, et le cas échéant, il a résisté à la pression, qui dit « non, non, mais nous on préférerait que tu en mettes qu'un seul », et puis il en met 12. Ou 10, suivant les cas, on a vu des professeurs aller jusqu'à, disons, renoncer aux deux derniers et s'arrêter à 10. En fait, on a vu des élèves pouvoir se souvenir de 8. Jamais plus, je crois une fois 9 mais pour une élève. Mais en fait, il faut dépasser le stade où les élèves arrivent à jouer en se souvenant de la liste des objets complets. Parce qu'il faut qu'ils passent une liste. Et l'enjeu va être de qu'ils comprennent que ce souvenir n'est plus la bonne manière de jouer, mais qu'il va falloir faire une liste. Et qu'ensuite, ils fassent la liste. Donc, ils apprennent à faire une liste. Et c'est tout l'enjeu du jeu, apprendre à faire une liste et ensuite à faire une liste qu'un autre pourra lire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une liste qu'on puisse soi-même lire. C'est déjà un problème qu'ils ne vont pas se poser tout de suite. Au début, ils vont faire la liste, puis ils ne vont pas la prendre pour venir jouer. Mais il faudra faire une liste qu'ensuite un autre puisse lire. Et donc, il faut qu'il y ait un codage reconnu comme un codage arbitraire de cette chose-là. Et ce n'est pas « moi, je fais comme ça » qui compte, c'est « nous faisons comme ça dans la classe » qui va être l'enjeu. Alors, voilà le panneau de référence, c'est-à-dire les objets qui ont reçu un codage standard sont petit à petit affichés dans la classe et on peut se référer à ce codage standard pour jouer. Évidemment, ceux qui jouent sans le codage standard, en disant « moi je fais comme ça », vont faire perdre leur binôme, c'est-à-dire que le lecteur ne pourra pas nécessairement décoder. Et à ce moment-là, le codage standard servira de référence. Pour Brousseau, c'est quelque chose qui est un usage classique des codes. Il affirme, je ne l'ai pas vérifié personnellement, je ne sais pas d'où il le tirait, mais quand on fait un plan pour construire une maison, en fait, personne ne suit le plan. L'électricien ne met pas exactement les prises là où il a été prévu qu'elles soient. Le plombier ne met pas nécessairement tous les tuyaux par l'endroit où il a été prévu que ça passe. Il a une marge de... Mais en cas de conflit, si le plombier perce pour mettre son tuyau là où il y a un fil électrique, on revient au plan pour régler la question. Et le tableau, là, a cette fonction-là. C'est-à-dire que chacun fait peut-être comme il veut, mais en cas de conflit, c'est le plan qui dit qu'il a raison. Et ça permet que ce ne soit pas le professeur. En fait, c'est ça la fonction. Et c'est la fonction adidactique dont on parlait hier, qui est là, remplie par ce panneau de référence. Alors... Donc l'étape cruciale, c'est le moment où on comprend qu'il va falloir faire des listes, parce que c'est après, et c'est sur les listes que va se faire le travail. Donc la grande difficulté, et ce qui fait problème aux professeurs à qui on propose cette ingénierie, c'est est-ce que vraiment ça va se passer, le coup des listes? C'est-à-dire est-ce que des élèves de maternelle vont penser à faire une liste pour régler cette question? Et donc cette phase-là est... complètement crucial dans le jeu, fait le problème principal que se posent les professeurs au début, même si c'est la question de la communication et de la constitution des listes communes qui est l'enjeu réel du jeu. Donc, est-ce que cette question va passer? Et c'est là qu'on va faire l'analyse croisée entre les enseignants et les chercheurs de Marseille et de Genève pour aller regarder... ce qui s'est passé, et pour croiser l'analyse lors d'une rencontre entre les chercheurs de Marseille et de Genève et les professeurs, où les professeurs se déplacent pour aller rencontrer les autres. Et on fait donc une réunion commune où nous sommes ensemble. Alors le dispositif là, vas-y, décris-le, Serge.
Le dispositif dont on présente un cas, finalement, s'est déroulé à Marseille. Les deux enseignantes genevoises et Francia Le Tenneguer s'est déplacée à Marseille. Et donc, 8 personnes ont pris part à l'analyse croisée. Les 4 enseignantes
et
4 chercheurs. 3 Marseillais et Francia. Et pour faire cette analyse, 8 extraits de vidéos respectives, 2 par classe, ont été sélectionnés. Et cette sélection, elle a été opérée par les chercheurs. Elle va donc être proposée successivement à la collectivité, 4 enseignants, 4 chercheurs. Mais au préalable, ces extraits ont été visionnés une première fois par les 4 enseignants. Donc une première sélection, un visionnage individuel, puis une discussion collective à partir de ces extraits.
Alors, on n'est pas dans un processus d'auto-confrontation croisée classique. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une analyse didactique croisée qui est en jeu. Et les extraits proposés à la comparaison, à l'analyse croisée, donc sont le choix des chercheurs qui veulent montrer un phénomène.
Alors, il y a quelque chose qui est important là-dessus. Oui. Attends.
Le choix des extraits.
Non, la construction de l'analyse. Oui. Si on veut avoir un point de vue un petit peu plus général sur l'ensemble du dispositif, on veut bien finalement que la présentation des différents extraits s'inscrit dans une chronologie, c'est-à-dire que l'extrait 1, puis l'extrait 2, puis l'extrait 3, puis l'extrait 4 font finalement, ne sont pas isolés les uns des autres, mais certaines remarques de l'extrait 1 sont susceptibles... Certaines remarques émergentes de l'analyse croisée dans l'extrait 1 sont susceptibles d'apparaître dans l'extrait 2 ou dans l'extrait 3 ou dans l'extrait 4.
Alors, l'analyse croisée est entièrement filmée à 2 caméras, une pointée sur l'écran pour qu'on sache les extraits et les commentaires, et l'autre pointée sur les participants pour qu'on puisse avoir le travail réalisé dans ce temps-là. Et en gros, le temps de travail collectif est donc de 2 heures, avec environ 30 minutes de travail sur les extraits, de visionnage des extraits et 1h30 de travail collectif. Dans l'ordre, on a passé Marseille-Genève comme extrait, avec un professeur de Marseille, un professeur de Genève, et puis on a repris les extraits d'eux, le même professeur de Marseille et le même professeur de Genève en parallèle.
Voilà. Voici l'ordre des extraits qui a été présenté. Alors, non seulement les chercheurs ont sélectionné les extraits, mais ils ont organisé les modalités de présentation des extraits au groupe.
Alors, en substance, les extraits comprennent les informations suivantes. Marseille, le premier extrait. En collectif, le professeur appelle une élève pour lui dire à l'oreille, pour qu'elle lui dise à l'oreille, les 12 objets de la boîte. L'élève perd. Le professeur ouvre la boîte à l'élève. Une autre élève veut rejouer. Et le professeur dit, tu ne peux pas rejouer puisque je vous ai montré ce qu'il y a dans la boîte. À Genève, le professeur, en individuel, joue le jeu et demande à une élève, à l'accueil du matin, de lui dire les 12 objets de la boîte, en présence d'une autre qui ne connaît pas le jeu et donc qui apprend à jouer. Et au fur et à mesure, le professeur coche les objets évoqués. L'élève perd, point. Il y a donc une modalité qui est, qu'on verra plus tard, mais... on a opposé le jeu collectif à un jeu individuel, dans un cas devant tout le monde et dans l'autre cas à l'accueil, élève par élève, au fur et à mesure qu'ils arrivent. Deuxième extrait, en collectif, le professeur appelle un élève pour lui dire à l'oreille les 12 objets de la boîte. Le professeur sort les objets de la boîte au fur et à mesure et les pose devant tout le monde. L'élève perd. Le professeur note le résultat en mettant un point rouge sur un panneau récapitulatif et remet tous les objets dans la boîte, appelle un autre élève. À Genève, devant les élèves qui ont déjà passé, le professeur demande à un élève de lui dire les 12 objets de la boîte, il perd, et il dit « Ah oui, mais j'ai fait la liste, mais je l'ai laissée à la maison. Voilà. » Donc, il a oublié de venir s'en servir pour jouer. Voilà donc les quatre extraits que l'on va mettre au travail ensuite. Extrait 2. Ah oui, on
compte tenu du temps qui nous est imparti,
on a crois qu'on ne va pas faire les extraits 2. On va laisser tomber. Voilà. Sinon, on n'y arrivera pas.
Les observables.
On n'a plus le temps. Donc, les observables discursifs. En fait, deux vidéos, c'est deux heures d'enregistrement hein, qu'on avait. On a tout est transcrit et nous avons trois niveaux d'analyse. Le niveau macroscopique, c'est l'ensemble du dispositif jeu du trésor. Le niveau mésoscopique, c'est l'analyse croisée des extraits. Et on vous a dit pourquoi on avait choisi au milieu le lieu de cette analyse mésoscopique, le moment où on va demander aux élèves de faire une liste, enfin où il va falloir qu'ils comprennent qu'il faut faire une liste. Et au niveau microscopique, on va aller regarder les interactions spécifiques à l'intérieur de chacun des extraits. Et ça suppose évidemment la construction d'une description générale, mais aussi d'un synopsis de chaque séance pour travailler à l'échelle mésoscopique avec des extraits microscopiques. Et donc, le travail se fait avec, petit à petit, une approche d'une coupe et puis d'une tranche dans la coupe qui va aller jusqu'à un niveau d'analyse plus fin. Alors, on a un tableau synoptique de traitement de la séance qui permet de voir un certain nombre de phénomènes.
Hein? Tu veux que je parle un peu ?
Vas-y, dis-le.
Alors, comme j'ai pu l'évoquer hier, je parlais de synopsis comme travail de réduction de l'ensemble de données. On va aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Et le travail de Francia permet de voir comment cette mise en synopsis est en quelque sorte un incubateur qui va permettre de faire remarquer des questions à l'enquête. Et cet incubateur, il est privilégié à partir d'une première remarque, c'est l'organisation de la durée et des temps accordés sur certains moments de l'échange ou certains extraits en particulier. Ici, ce qui est très, très marquant, c'est un travail d'échange entre le prof ME de Genève et la vidéo 1 et la vidéo 1 de Marseille avec, j'ai du mal à les appeler comme ça, mais avec Marie et Fazia, on va être très, très clair, et la réaction de Patricia de Genève sur cet extrait-là. Donc on voit déjà, à partir de ce synopsis, on peut remarquer un phénomène d'attirance de discussion à propos de cet extrait-là. Donc ce synopsis permet déjà d'avoir une suspicion dans l'enquête qui va être conduite. Voilà.
Alors, vous voyez par exemple que ça montre déjà que sur la vidéo 1, il y a 27 minutes à passer à Marseille sur quelque chose qui dure, si j'ai bonne mémoire, 5 minutes ou 9 dans d'autres endroits. On ne vous donne pas les clés maintenant, sinon ça va tout faire, mais vous voyez qu'il y a là l'identification d'un phénomène qui a dû se produire et qui va attirer notre attention sur ce phénomène. Je passe sur les VO2.
Voilà. Voilà, le choix des événements.
Alors, le choix dans les extraits, on va essayer de chercher, au regard de questions de recherche posées, des événements de parole significatifs. Donc on va rentrer dans une analyse à l'échelle microscopique maintenant. À l'échelle microscopique, voilà les éléments de parole qui vont venir. Donc relatifs à la vidéo qui nous avait posé problème. Le professeur joue collectivement, sort les objets de la boîte à mesure qu'ils sont évoqués, et les autres enseignants réagissent tout de suite en disant « Mais si on les montre, alors ils vont pouvoir gagner, puisqu'ils peuvent apprendre en cours de jeu et les objets qu'a sortis un élève en se souvenant, les autres vont pouvoir les renommer.
Donc, aider à la mémorisation.
Et donc ce jeu sur d'aide à la, cette aide à la mémorisation est traduite par celle de la triche. C'est-à-dire que en fait, on a un affaiblissement de la valeur du jeu. Et on voit bien que à un moment donné, le professeur dit « c'est de la triche, je vous ai montré ce qu'il y a dans la boîte », mais elle a montré cette fois-là tout ce qu'il y avait dans la boîte pour montrer qu'on était loin du compte, tandis que dans la fois d'après, elle ne montre que la partie que qu'un élève a nommée et un autre élève qui nomme, elle le vérifie et elle a l'expérience de ça, c'est son expérience qui dit que c'est pertinent, montre que le second élève qui passe n'apprend pas de ça parce que sa liste, c'est ce qu'il a formé en réfléchissant à la question au moment où il fallait mémoriser la liste, et il ne va pas du tout apprendre, ça va pas favoriser la réussite. Donc il y a un choix qu'il faut expliquer par d'autres phénomènes
avec une analyse un petit peu plus précise des échanges, je pense.
Oui, alors il faudra aller regarder plus près de quelles sont les conditions dans lesquelles le professeur agit, pourquoi est-ce qu'il décide de ça, et c'est ses commentaires qui vont nous le dire. Et on va vous montrer l'extrait de
On va tenter de vous montrer l'extrait, donc j'ai branché, je vais voir ce que ça marche, si ça marche.
Au pire, alors, tu diras le son si le son
non, non, passe non, pas. Non, on regardera la transcription.
Bon.
Alors la qualité de l'image rend compte du dispositif, c'est-à-dire que, comme Alain l'a expliqué, il y a une caméra qui fixe l'écran, et il y a une autre caméra qui filme les réactions des différents protagonistes dans la situation. Nos faibles moyens techniques à disposition ne nous permettent pas encore de faire un montage dans lequel, parallèlement, ça va venir. On verrait l'intégralité du dispositif qui est mis en œuvre, c'est-à-dire les deux caméras et la synchro. En fait, on a des problèmes de synchro. On n'est pas bon en film, quoi. Donc je vais essayer de. Évidemment.
C'est quelle étape ça?
La même.
C'est la même.
Sauf que moi je les sors.
Et tu les montres à tout le monde?
Ouais.
Bien sûr.
Alors c'est intéressant parce que toi tu te posais la question.
Mais quand ils chassent, les autres n'entendaient pas?
Non.
Non. Ils entendaient un peu, mais...
Oui. Non, là, il y a un prix qui...
On n'entend pas,
hein. Mais on n'entend pas, vraiment.
Elle a un micro, micro-cravate.
Plus personne ne peut jouer.
Et si, c'est ça qui est assez étonnant. C'est que même si on pouvait sortir beaucoup d'objets, il y en a qui pouvaient très bien en sortir que 3. Ou 2.
Avec les grands, moi, ça ne marche pas.
Et ben, moi, en tout cas, avec les moyens, c'est ça, c'est l'effet, c'était assez...
Tu veux dire qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont déjà été?
Tout à fait.
Bien sûr.
Et oui, en tout cas, comme si cette mémorisation n'était pas suffisante pour eux. Et que, enfin, je sais pas, en tout cas, ça a fonctionné. Oui. Ça a fonctionné. Ils n'ont pas gagné. Hein. Personne n'a gagné.
Si je peux me permettre.
Donc, ici, on a à la fois la capture devant le film et les extraits de discussion que ça a suscité. Donc, on va aller un petit peu plus loin.
Donc, c'est relatif. Alors, l'analyse est à ce moment-là relative à. On analyse les données à ce niveau-là, entre la gestion enseignante, le type des objets qui sont dans la situation, la conduite des élèves, et donc c'est relatif au contrat didactique, l'analyse, ce qui fait qu'on va conduire successivement... excuse-moi, je vais vite, mais c'est parce que le temps passe et qu'il faut accélérer, je crois. Mmh. Voilà, donc c'est une analyse relative au contrat didactique et on ne va pas vous en donner plus.
Et qui se conduit au
micro. Et c'est conduit, voilà. Et c'est là qu'on a une transcription de ça, donc, avec cet étonnement de... même si on pouvait sortir beaucoup d'objets, il y en a qui pourraient très bien en sortir que 2 ou 3, et donc ça ne marche pas. Et le débat se fait sur... Est-ce qu'avec une classe de grande section, parce que le jeu est joué en grande section et en moyenne section. Et là, c'était le jeu de moyenne section que vous avez vu, avec des élèves de moyenne section, en ZEP. Est-ce qu'en grande section et pas en ZEP, ça jouerait de les sortir, et est-ce que le même phénomène se reproduirait, ou est-ce qu'on pourrait le faire? Et donc la question qui se pose est une question de, est-ce qu'avec les miens, ça marcherait aussi, si je faisais comme ça? C'est un truc tout à fait important. Et donc, est-ce que c'est bien la même étape? Et oui, c'est la même étape dans le jeu, mais on la joue différemment.
Ce qui est très important dans ce début d'analyse, c'est que l'enseignante ME de Genève pose la question directement à Fazia à Marseille, mais c'est quelle étape ça ? Autrement dit, elle a du mal à reconnaître dans le dispositif la situation qu'elle et l'enjeu qu'elle-même a mis en œuvre. Et elle interroge directement l'enseignante qu'il a mis en place à Marseille. Donc, elle s'attache
à aux
enjeux.
C'est bien les mêmes enjeux. Le chercheur rappelle que, effectivement, pour d'autres, c'était triché. Et le professeur dit, mais s'ils peuvent voir les objets, est-ce qu'ils peuvent entendre le nom ? Non, ça, il le chuchote. Mais enfin, il le donne. Et le professeur reconnaît donc que c'est étonnant, mais que ça ne fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne. Et donc, elle dit, sans doute, c'est une question d'âge des élèves. C'est possible que ce soit ça. Et... donc un des professeurs se rassure en disant « c'est parce que c'est des petits, avec moi ça ne serait pas la même chose ». Je ne sais pas, mais ça fonctionne. Donc on a évoqué là les objets de la situation et le contrat didactique dans l'opération.
Attends, on va
défaire
ça.
Vas-y. Mais
Donc du point de vue des catégories dans l'analyse, en fait, ce sont surtout les objets de la situation qui sont évoqués.
Oui.
Et si les élèves voient les 12 objets juste avant, ils pourront les dire. Et pour certains profs, hein, c'est de la triche s'ils les voient. Or, justement pas. C'est le propre de la situation avec ces 12 objets. Qu'on les ait vus la veille ou juste avant, finalement, ça ne change rien puisque la mémoire est saturée. Donc l'enjeu, c'est bien au niveau de l'enjeu que ça se situe. Ensuite, par rapport à la conduite
individuelle ou collective,
eh bien, effectivement, là, on voit une dissonance dans les remarques sur ce type de moment, ce changement de phase, ce saut informationnel qui est provoqué par la situation. Peut-il être joué de façon individuelle ou collective, sachant que la réalisation et la réussite de la situation a effectivement été constatée dans les deux situations.
Alors, si vous vous rappelez ce que nous avons discuté hier, vous repérez des influences, sans doute, de la recherche dans l'histoire, et puis des influences de la situation. Dans un cas, on est en ZEP, ça c'est l'influence de la situation collective, on est en ZEP, on est moins sûr que les élèves vont rentrer dans le jeu, et le collectif permet de montrer à tous la réussite des meilleurs. Et donc de montrer qu'il est possible de réussir ou de mettre en scène, disons, la tension du questionnement en le partageant avec l'ensemble des élèves et non pas en questionnant individuellement les élèves sur ce qu'ils réussissent à faire ou sur ce qu'ils pensent ou sur leur performance. Le second phénomène, c'est l'idée, bien sûr, que dans les situations didactiques, la connaissance est collective et peut être partagée et donc... que la production de connaissances est un processus collectif et pas du tout individuel. Et on voit bien qu'à Genève, l'influence de l'individualisme des travaux psychologiques et didactiques qui ont lieu dans la ligne de Piaget engage les professeurs, dans cette école en particulier, à aller regarder si tel élève est capable d'imaginer la liste plus que si la classe est capable d'imaginer la liste comme collectif. Au moins dans le premier temps. Du coup, l'interrogation sur est-ce que c'est la même phase du jeu est tout à fait révélatrice d'un certain nombre d'éléments de compréhension de ce qui se passe et des choix des professeurs. Voilà.
Pour aller très brièvement, ce que permet aussi l'analyse croisée dont on montre la puissance ici, c'est qu'il est particulièrement intéressant, de mon point de vue, pour montrer ce jeu de rapport entre les objets, le rapport des élèves et le rapport aux objets des enseignants et la conduite des élèves par rapport à ces objets-là. Mais je vais aller un petit peu plus vite. Ces rapports, ils sont surtout exprimés par les enseignants, voire l'extrait que l'on a précisé, mais aussi pour les chercheurs. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une co-construction avec les chercheurs. Les chercheurs ont provoqué, c'est une situation provoquée, ont sélectionné. Et c'est l'un des chercheurs, si vous vous souvenez un petit peu de la chronologie des faits, qui révèle ce qui a été précisé précédemment, c'est-à-dire c'est triché si on a vu. C'est lui qui met en évidence cette chose-là dans le flot de la discussion. Et pour conclure...
Alors, pour conclure, comment est-ce que finalement on va terminer l'opération ? Non, je ne sais pas où. Bon,
c'est un choix. Après,
c'est avant, après ?
Après. Voilà.
Voilà. Alors, le choix des extraits, eh bien, on voit qu'il a, pour nous, il a été fait sur le fait qu'il y avait des enjeux de savoir qui étaient traités de façon différente. Donc, c'est des choix, on pourrait dire, de transposition ou de fin de transposition et de mise en œuvre. Qui montre des enjeux d'enseignement et d'apprentissage assez différents, ou en tout cas un rapport des professeurs à ça assez différent. Le dispositif d'analyse croisée est intéressant et s'est montré intéressant puisqu'il a, il s'est attaqué à la familiarité des élèves, des professeurs, à leur pratique ordinaire et aux choses qui vont de soi dans la façon de faire. Les Genevoises ne se posaient pas de questions sur la façon individuelle de faire du professeur genevois et les Marseillaises sur la façon collective de faire du professeur marseillais. Donc il y a bien une défamiliarisation et tu fais des choses différentes. Donc il y a bien une confrontation des pratiques.
Oui. Alors, pour compléter ce que dit Alain et puis ce qui était au cœur de ce que présentait Roland tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le choix des extraits est très important. Mais pouvoir choisir, pour avoir un choix d'extrait pour produire ce travail, il a nécessité ici l'ampleur d'un dispositif, 5 mois dans chaque classe, pas moins de 40 à 50 séances observées pour pouvoir opérer ce choix.
Voilà. Après, il y en a d'autres, hein, puisqu'on a eu d'autres réunions et d'autres thèmes de travail aussi. Alors, l'analyse croisée a montré un certain nombre de... Non, ça, je l'ai fait.
Non, le dispositif défamiliarisation.
Oui, la défamiliarisation, je l'ai dit, mais t'as pas entendu. Bon, donc, défamiliarisation des professeurs vis-à-vis de leur... la familiarité, le premier rapport à leur pratique entre les Genevoises et les Marseillaises, professeurs, mais aussi entre les chercheurs et leur manière d'interroger les données, puisque nous étions plus orientés sur des questions de transposition didactique, et que Francia est plus orientée sur des questions d'analyse du contrat, et donc de la façon dont, à l'intérieur des rapports entre professeurs et élèves, les choses se jouent. La confrontation des pratiques a été efficace, on peut dire, et les limites de la chose, c'est le suivant, c'est que c'est particulièrement lourd comme dispositif, parce que, comme vous le voyez, on arrive à de l'analyse micro sur des points tout à fait importants, mais sur une journée de réunion de gens qui sont dans des lieux différents, on arrive à comprendre l'enjeu d'un point crucial, mais il y a plusieurs points cruciaux dans l'opération. Vous avez vu qu'on n'est pas encore dans le contenu de savoir qu'on veut avoir, qui est la construction du code commun. Donc il faut que les élèves apprennent à faire les listes et puis se rendent compte que l'autre ne sait pas lire la liste qu'on a faite. Et c'est ce moment-là qu'il aurait fallu aussi analyser et qui suppose une réunion supplémentaire. Et puis l'emboîtement des analyses a priori, essaye d'identifier où seront les problèmes et du visionnage des vidéos, puis de la construction de l'analyse croisée pour voir comment on peut produire du savoir commun là, est tout à fait complexe. Et on voit qu'une équipe seule n'est pas capable de mener ça. Mais deux équipes seules non plus, ça, on n'a pas tout l'ensemble des moyens nécessaires à ce travail. et on n'a pas pu le conduire au-delà de ce qu'on vous montre aujourd'hui.
Voilà. Précisons quand Francia énonce un dispositif très lourd, peut-être que la formulation d'un dispositif de grande ampleur serait peut-être plus adaptée. Évidemment, là, on n'en montre qu'un petit morceau. Je voudrais citer par rapport à ce que montre Francia, que ce travail sur le jeu du trésor a été non seulement conduit à Genève, à Marseille, mais aussi au Créat de Rennes. Et l'ensemble du dispositif porte sur ces trois équipes qui, dans des réflexions et des analyses communes aussi, ont permis de montrer des phénomènes. Et je ne voulais pas oublier les autres équipes au travail.
D'autant qu'on a conduit avec Rennes le même type d'analyse croisée sur les objets et les choix qui avaient été faits.
Nous avons terminé.
Voilà, on a terminé.
Merci de votre indulgence.
Bon, j'espère qu'on a rendu compte du travail de Francia.